Merci d'avoir choisi RCF, il est 8h. La mystique selon Henri de Lubac, au cœur ce matin de À l'école de la prière. Nous rejoignons Xavier Accard et son invité.
À l'école de la prière,
Dieu viens à mon aide,
en partenariat avec le mensuel Prier. Xavier Accard.
Bonjour et bienvenue à l'École de la prière, une émission qui vise à vous introduire à l'art de la prière. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Dominique Poirel, qui est directeur de recherche au CNRS, qui est spécialiste de la pensée médiévale et qui vient de faire paraître aux éditions du CERF Mystique, Aventures et mésaventures d'un mot des origines à nos jours, où il retrace l'histoire de cette notion des auteurs païens, des mystères, des religions à mystère, jusqu'au XXIe siècle, en traversant toute l'histoire chrétienne à travers des grandes périodes et de nombreux auteurs. Bonjour Dominique Poirel.
Bonjour Xavier Accard.
Alors aujourd'hui, vous allez nous parler d'une très grande référence, d'un très grand, presque contemporain, qui est mort au siècle dernier et qui a énormément fait pour recomprendre cette notion de mystique qui s'est énormément déformée ou pluralisée au cours des âges, qui est Henri de Lubac. Est-ce que vous pouvez nous dire juste quelques mots pour nous présenter qui était Henri de Lubac ?
Alors Henri de Lubac donc, est un jésuite qui est un des grands savants du XXe siècle, à l'origine, membre d'un mouvement qui a eu sa place dans le renouveau de Vatican II pour aussi revenir, avoir une meilleure connaissance de la pensée patristique.
Donc des pères de l'Église.
Voilà. Et en vivre aujourd'hui. Alors, c'est quelqu'un, c'est une personnalité pour laquelle j'avoue avoir énormément d'admiration, qui est à la fois un très grand savant, un très grand historien, un grand théologien, et aussi un homme vraiment ouvert sur toutes les grandes questions de son temps, et qui a essayé de se servir de sa grande connaissance de la tradition de l'Église, une tradition non seulement patristique, mais tout au long des siècles, pour éclairer la question, par exemple, de l'athéisme. Il a aussi été important dans le dialogue avec le bouddhisme. Donc c'est vraiment une personnalité à multiples facettes, et peut-être que la notion de mystique peut être une clé pour comprendre...
Oui, parce que vous me disiez que dans le mémoire sur l'occasion de mes écrits, un texte d'Henri de Lubac, il dit qu'il a un projet autour de cette notion de mystique, qu'il voudrait écrire un livre, c'est ça ?
Oui, alors je vais citer la phrase parce qu'elle est extrêmement frappante. C'est, je crois bien, depuis assez longtemps, l'idée de mon livre sur la mystique qui m'inspire en tout. C'est de là que je tire mes jugements. C'est lui qui me fournit de quoi classer à mesure mes idées. Mais ce livre, je ne l'écrirai pas. Il est de toute manière au-dessus de mes forces physiques, intellectuelles, spirituelles. J'ai la vision de ces articulations. Je distingue et situe à peu près les problèmes qui devraient y être traités dans leur nature et dans leur ordre. Je vois la direction précise dans laquelle devrait être cherchée la solution de chacun d'eux. Mais cette solution, je suis incapable de la formuler. C'est terrible. Un des plus grands théologiens du XXe siècle qui nous dit, voilà, il y a quelque chose qui est au centre de ma pensée, qui m'a inspiré dans tout ce que j'ai écrit, effectivement. Il a écrit sur les quatre sens de l'écriture, donc l'exégèse mystique, sur le corpus mysticum.
Sur l'Église ou l'Eucharistie, selon, ouais. Mystique.
Le drame de l'humanisme athée, j'y faisais allusion tout à l'heure, il y avait un sous-titre prévu qui était « Affrontement mystique ». Donc on voit, c'est vraiment une notion... plurivalente ou unifiante. Et donc se pose la question, mais que veut dire mystique pour le cardinal de Lubac, puisqu'il a été créé cardinal par Jean-Paul II.
Alors, que veut dire mystique pour le cardinal de Lubac ? Là, vous nous mettez... le suspense est insoutenable. Oui, parce que il faut peut-être dire, on l'a dit dans différentes émissions, mais que le mot mystique a énormément évolué, que... À l'origine, il référait donc au mystère du Christ, tel que le dit saint Paul, cette incarnation de Dieu lui-même, du Verbe, et puis sa passion, sa mort, sa résurrection. Et puis ensuite, on a un peu perdu ce centre, et le mot en est venu à dire beaucoup de choses très, très différentes. Mais pour le cardinal de Lubac, alors qu'est-ce que ça signifie et comment l'approche-t-il à travers ses différents livres ?
Alors, justement, il est celui qui, par les études qu'il a entreprises, a peut-être la connaissance la plus globale des différentes significations qu'a revêtu le mot mystique tout au long de son histoire. Et il a écrit une introduction au livre « La mystique et les mystiques » de son confrère Ravier, je crois, et dans lequel il donne quelques éléments sur ce qu'était son projet. Dans son livre qu'il n'a pas écrit, son livre rentré sur la mystique, il voulait renouer le lien qui s'était rompu entre, on pourrait dire, entre le sens ancien et les sens modernes du sens
mystique. Donc le sens ancien, c'est ce qui se réfère au mystère du Christ, et le sens moderne, c'est plus l'expérience intime de Dieu, d'une certaine façon, en dehors de la médiation ecclésiale ou...
Voilà. Voilà, le sens ancien, comme on a déjà pu le dire, c'est ce qui se réfère au mystère du Christ, aussi bien dans l'assimilation des Écritures, sens mystique des Écritures, que dans la liturgie, corps mystique, qui désigne à la fois l'Eucharistie et l'Église, l'un impliquant l'autre, fondant l'autre. Et donc, le cardinal de Lubac est extrêmement conscient que, finalement, pour redonner vigueur à l'Église, il faut revenir à ses sens anciens, c'est-à-dire à une lecture de l'Écriture centrée sur le mystère, à une pratique de la liturgie qui, elle aussi...
Célébration des mystères.
Célébration des mystères. Et donc, il essaye de tirer mystère vers mystique, ou mystique au sens ancien vers mystique au sens moderne. Et je pense que c'est peut-être pour cela
qu'il a du mal à trouver...
Qu'il a du mal, parce que entre les deux, il y a eu tellement de déformation de ce que le mot mystique signifie, que d'une certaine manière c'est ramé à contre-courant de l'histoire. Alors, il faudrait peut-être faire une parenthèse, mais qu'est-ce qui s'est passé vers 1700? Il y a la querelle du pur amour qui fait que Fénelon a essayé d'aller chercher dans une certaine tradition les partisans des théorie quiétiste de Madame Guyon, et il a intitulé, il a créé d'une certaine manière un corpus qu'il appelle les mystiques.
Ah d'accord, il a donné ce terme, d'accord.
Voilà, ce qui fait que...
Il appelle pas ça les gnostiques plutôt, non ?
Alors, il y a Clément d'Alexandrie, mais effectivement, c'est à ce moment-là où le mot les mystiques commence à s'employer et va s'employer de façon péjorative pour dire les vaincus de cette querelle.
D'accord. Et puis, oui, parce que pour resituer, en fait, donc Fénelon va perdre contre Bossuet et contre on va condamner ce quiétisme, voilà, qui va être disqualifié pour plusieurs siècles. Et donc la spiritualité va devenir un peu plus cérébrale, un peu plus maîtrisée. On va avoir peur de cette passivité de la vie mystique. Hein, c'est ça.
Voilà.
Et puis du côté illuminé, comme on dit.
Voilà, exactement. Et or, ce qui se passe aussitôt, c'est qu'il y a chez certains courants protestants, par exemple le pasteur Poiret, qui est une sorte de personne écuménique avant la lettre, et qui va transmettre dans l'Allemagne protestante les théories de Fénelon, et puis qui va faire une espèce d'encyclopédie des mystiques.
Ah, d'accord.
Ce qui fait que dans le monde germanique, à un moment donné où en France, dans la France catholique, le mot mystique tombe en désuétude, les mystiques, c'est des ringards, c'est des illuminés. Au moment des Lumières, on se moque allègrement d'eux. C'est à ce moment-là que naît le mot de mystification, qui est un peu l'équivalent du dîner de cons.
D'accord.
Enfin bon.
Ouais.
Alors qu'en Allemagne, le mot va revenir en honneur, être un peu associé à des courants théosophiques, occultistes, comme Jacob Böhm. Ce qui fait qu'au moment du romantisme, le mot mystique va être employé en grande faveur chez les premiers écrivains romantiques pour désigner un petit peu une sorte d'antidote au rationalisme desséché des Lumières. Et donc là se crée un clivage. On perd de vue le caractère unitaire qu'avait le mystère chrétien, et mystique finit par désigner l'autre des courants rationalistes ou rationnels, tout simplement, dominants.
Orthodoxe, quoi.
Voilà. Et donc, là, on a une dissociation qui fait que les uns parlent de la mystique comme ce vers quoi il faudrait revenir pour nous régénérer après des épisodes de lumière desséchante. D'autres, au contraire, vont employer le mot mystique pour dire l'illusion oui. de toutes sortes, non seulement religieuse, mais...
Oui, on le retrouve encore chez les auteurs du XXe siècle comme une insulte. Lui, c'est un mystique.
Voilà.
Ça veut dire, c'est un illuminé qui est à côté de la plaque, quoi.
Et voilà, et je pense que le cardinal de Lubac a voulu, avec cette espèce de générosité, d'intelligence qui est la sienne, de volonté, d'ouverture au monde moderne et en même temps de fidélité à la tradition la plus authentique. Et il a essayé de tenir ensemble de continents qui s'écartaient, je crois. Et c'est, à mon avis, c'est la raison pour laquelle il était peut-être trop difficile d'écrire ce livre.
Merci Dominique Poirel d'avoir évoqué ce livre que nous rêverions de lire, mais qui n'existera jamais, à moins qu'on trouve peut-être un manuscrit caché dans les archives du père de Lubac. Je rappelle que vous avez publié au CERF un livre passionnant qui s'appelle « Mystique, aventure et mésaventure d'un mot des origines à nos jours ». Vous retracez l'histoire de ce terme important pour la vie chrétienne, le mot « mystique ». Merci chers auditeurs de votre attention. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine et d'ici là, j'espère vous retrouver dans le mensuel prier qui vous forme à la prière, qui vous informe sur le monde de la prière et vous propose l'évangile médité chaque jour par les plus grands saints dans son petit supplément « Prier au quotidien » que vous pourrez avoir dans votre sac facilement parce que c'est un petit format. À très bientôt. Merci.
À l'école de la prière présentée par Xavier Accard ce matin, la mystique selon Henri de Lubac. À suivre sur RCF et Radio Notre-Dame, hommage à Edmond Flegg, cofondateur de l'Amitié judéo-chrétienne de France. Vous retrouverez Odile Riffaut et son invité pour connaître le judaïsme.
Dieu, donne-moi un tel amour que je ne sache plus où je suis. Fais-moi ainsi me perdre que je ne sache plus où je suis. Éblouis-moi de ta lumière que je ne sache plus où je suis. Fais-moi toujours t'aimer d'un tel désir que je m'oublie. Prends-moi, ôte-moi de moi-même, remplis-moi de toi. Fais-moi mourir en ce monde que je ne meure pas dans l'autre. Donne-moi un tel amour que je ne sache plus où je suis. Fais-moi ainsi me perdre que je ne sache plus où je suis. Je me consume lentement, mes entrailles sont noyées de sang. L'amour a marqué si fort mon âme que je ne peux plus retenir mes larmes. Ah, que je sois un oiseau qui chante, qui au jardin de l'ami repose, et que je sois comme la rose qui jamais ne se fane. Fais-moi pendre comme Ralage, expose mon corps en plein jour. Je ferai de mon âme un sacrifice d'amour. donnes-moi un tel amour que je ne sache plus où je suis.
Donne-moi un tel amour, un texte de Younous Emre, grand prêtre soufi du XIIIe siècle, interprété ici par Pierre Eliane. Sur RCF et Radio Notre-Dame, nous rendons hommage maintenant à Edmond Flegg, cofondateur de l'Amitié judéo-chrétienne de France. C'est le thème de Connaître le judaïsme, préparé par Odile Riffaut.
Espérance et fidélité, ce sont sans doute les mots qui caractérisent le plus Edmond Flegg, philosophe, écrivain, romancier et cofondateur avec Jules Isaac de l'Amitié judéo-chrétienne de France. À l'occasion des 150 ans de sa naissance, le 26 novembre 1874, nous retraçons le parcours de cette grande figure du judaïsme. En votre compagnie, Claire Dodin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de la vie et de l'œuvre de Charles Péguy, dont vous avez dirigé la publication des œuvres poétiques et dramatiques dans la bibliothèque de la Pléiade en 2014. Alors justement, il y a un lien entre Charles Péguy et Edmond Flegg. Quel est-il ?
Alors tous les deux sont contemporains. Edmond Flegg est un peu plus jeune que Péguy à 2 ans près. Tous les deux sont normaliens. Mm-hmm. Ils ont été élèves de l'école normale supérieure dans les mêmes années. Mais ils ne se fréquentaient pas du tout à l'époque, parce que Charles Péguy était un jeune militant socialiste très actif qui effrayait beaucoup Edmond Flegg, qui lui, à l'époque, était plutôt un esthète, adepte de l'art pour l'art, et qui ne se mêlait pas de politique. Ce qui va les réunir, c'est l'affaire Dreyfus. C'est l'affaire Dreyfus parce que Flegg va être concerné à cause de ses origines juives, et Péguy, lui, va s'engager dans ce combat pour la vérité, la justice, donc du côté de Dreyfus. Et par la suite, ces deux jeunes intellectuels vont devenir amis, et Edmond Flegg publiera un texte important, c'est le début de son long poème « Écoute Israël », au cahier de la quinzaine, la revue de Charles Péguy.
Alors de son vrai nom, il s'appelait Edmond Flegenheimer, si je prononce bien. Donc il est né en Suisse, il a été naturalisé français à l'âge de 47 ans. Est-ce qu'on peut dire qu'il fait partie de ceux qu'on a appelés les juifs assimilés ?
Oui, alors assimilé au sens où, bien qu'il soit à l'origine de nationalité suisse, c'est un fin connaisseur, un grand admirateur de la culture française, de la culture européenne en général, et ses parents sont d'un milieu bourgeois, aisé, et la religion n'a pas énormément de place dans sa vie, et c'est d'ailleurs très intéressant parce que dans ses souvenirs, il raconte que finalement, il était très peu touché par le judaïsme que l'on pratiquait dans son foyer familial, alors qu'en revanche, la lecture de l'Évangile qu'il a faite quand il était adolescent l'a bouleversé. Et un des attraits de la figure d'Edmond Flegg, c'est qu'il n'a cessé de faire dialoguer judaïsme et christianisme. Et c'est vraiment un juif qui a aimé Jésus et qui l'a regardé en face. Et ça, c'est très impressionnant.
Alors on va revenir effectivement sur ce regard particulier qu'il avait sur Jésus. Peut-être d'abord évoquer la façon dont il a redécouvert lui-même son judaïsme à la faveur de l'affaire Dreyfus, comme beaucoup de juifs finalement de l'époque. Qu'est-ce que ça a changé pour lui ?
Alors ça a changé que les Israélites, comme on les appelait à l'époque, qui se considéraient comme des citoyens français quand ils avaient la nationalité française, comme des produits de la culture humaniste occidentale, se sont vus attribuer une autre identité avec laquelle ils avaient pris des distances, et une identité totalement négative, puisqu'elle émanait des antisémites. Donc cette prise de conscience chez Flegg, elle est très progressive et elle est très choquante.
Choquante,
c'est choquante au sens où il ne se reconnaît pas dans la figure du juif telle qu'elle est caricaturée par les antisémites. Lui, il est un jeune homme de lettres qui a des succès très tôt sur la scène dramatique parisienne, et on voit dans sa correspondance avec sa mère que ça n'est que progressivement qu'il prend conscience qu'il est concerné et qu'il est juif. C'est le regard de l'autre vraiment qui le lui révèle. Mais un retournement profond va s'accomplir en lui un peu plus tard, à vrai dire. L'affaire Dreyfus l'a préparé, mais c'est la paternité qui, donc il se marie, il va avoir deux fils, mais il raconte que lorsque son fils aîné a eu un an, eh bien, l'expérience était si profonde et bouleversante pour lui qu'il a décidé de se pencher sur son patrimoine culturel juif. Et là, pendant 3 ans, il n'a fait que lire tous les écrits du judaïsme, les écrits religieux, les écrits philosophiques, à travers les siècles, de sorte qu'il s'est constitué un bagage spirituel et intellectuel remarquable, et que pendant tout le reste de sa vie, il a exploité ce trésor.
Donc il a redécouvert finalement le judaïsme en tant qu'homme de lettres, finalement, c'est-à-dire qu'il a adopté complètement cette pratique d'interprétation des textes, il s'y est immergé totalement.
Tout à fait, avec la dimension de la transmission. C'est-à-dire que pour lui, c'était essentiel que tout juif puisse faire le même mouvement qu'il avait accompli, c'est-à-dire avoir connaissance de ce trésor et se sentir nourri par cette veine de la sagesse et de la mystique juive au long des siècles.
Et donc, vous parliez de transmission, c'est aussi pour ça qu'il a fondé le colloque des intellectuels juifs de langue française en 1957.
Oui, mais voyez, ça vient assez tard déjà dans son parcours, parce que la Deuxième Guerre mondiale est passée par là, et on pourrait parler d'une étape plus précoce qui a été son investissement dans le mouvement des scouts israélites de France, dont il est devenu, donc, non seulement président, mais aussi inspirateur, et les écrits de Flegg nourrissaient ce mouvement. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, on sait que les éclaireurs israélites de France ont eu une action majeure de sauvetage des enfants juifs, y compris et surtout même de tous ceux qui venaient de l'Europe de l'Est. Et Flegg a été vraiment l'âme de ce mouvement, et de ce mouvement de scout et de ce mouvement de résistance et de protection de l'être juif, très concrètement, à une époque de persécution.
Connaître le judaïsme, Odile Riffaut.
Et nous sommes en votre compagnie, Claire Daudin, pour évoquer Edmond Flegg, cofondateur de l'Amitié judéo-chrétienne de France en 1948. Quel regard avait-il lui-même sur le christianisme ?
Eh bien, comme il le raconte, dans sa jeunesse, donc son adolescence, il a rencontré le christianisme, il a lu les évangiles, et il a aussi été reçu dans une famille protestante. Et finalement, son être religieux a commencé à frémir, non pas dans le judaïsme un peu sclérosé pratiqué dans sa famille, j'espère ne blesser personne en disant cela, mais dans ce qu'il découvrait de la figure de Jésus et du mode de vie aussi de cette famille protestante. Seulement, avec la montée de l'antisémitisme, avec les prises de position catholiques, il a aussi pris conscience que ce Jésus, qui lui semblait le fleuron du génie juif, ce Jésus qui prenait l'amour, le partage, le pardon, et qui le faisait pleurer d'émotion quand il lisait les évangiles, a servi aussi, a été exploité par une église qui a été quand même une force de persécution pour les juifs. Et là, ça a bloqué. Et Flegg dit clairement que, en tant que juif, il ne peut pas reconnaître Jésus comme le Messie attendu par les Juifs.
À cause de cet antisémitisme.
À cause de la façon dont l'Église catholique a persécuté les Juifs.
Il a aussi expliqué dans un livre « Pourquoi je suis juif » publié en 1927, les raisons de sa fidélité au judaïsme. Quels en sont selon vous les ressorts ?
Alors c'est une profonde générosité, une espérance en l'homme et en Dieu. C'est vraiment dans le droit fil des psaumes, je dirais. Mmh. D'ailleurs, Flegg a publié un très beau livre auquel il a donné le titre de « Le chant nouveau ». Qui est vraiment tiré des psaumes, et je pense qu'il a été vraiment l'auteur d'un chant nouveau. Et donc son ancrage dans le judaïsme n'est pas rituel, n'est pas strictement religieux, bien qu'il soit très spirituel, mais il est à base de vénération d'un principe unique et bon à l'origine de la création, conscience d'un rôle des Juifs d'être un ciment pour les nations. Ça, c'est très beau aussi chez Edmond Flegg. Il avait un attachement pour l'État d'Israël naissant, mais c'est quand même un juif de la diaspora, de la dispersion, comme il dit, et qui voit dans la dispersion une vocation propre. Pour lui, les juifs sont appelés à faire fraterniser les peuples et à leur faire connaître toutes les valeurs du Dieu d'Israël. Donc, c'est pour ça qu'il pense qu'on peut mettre d'accord l'attente messianique des juifs et l'attente du retour du Christ des chrétiens. Et ça, c'est très beau, c'est des pensées qu'il a développées même assez tard dans sa vie, justement dans son action pour l'amitié judéo-chrétienne de France. Il y a là une fraternité possible.
Et cette attente messianique des Juifs, est-ce qu'elle a un rapport avec la notion d'espérance ?
Tout à fait, tout à fait. Et pour quelqu'un comme Edmond Flegg, qui a traversé ce XXe siècle tellement cruel, lui aussi a été touché dans sa famille, dans ses proches, par les persécutions nazies. La vertu d'espérance, il faut vraiment qu'elle soit solide, qu'on l'ait chevillée au cœur et à l'âme pour la défendre jusqu'au bout. Mais pour moi, Flegg est vraiment une figure d'espérance.
Oui, il a cette notion d'espérance-défi. Elle semble d'autant plus prégnante énoncée après la Seconde Guerre mondiale.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais ça, c'est la grande force des figures spirituelles, c'est-à-dire qu'elles ne versent jamais dans le nihilisme ni dans le désespoir.
C'est important pour vous, aujourd'hui, de rendre hommage à Edmond Flegg ?
Oui. Moi, c'est une personnalité que j'ai découverte assez tardivement, par le biais de Peggy et de ce cours que j'avais donné à l'ISTR de Marseille sur Peggy et les Juifs, la mystique de l'amitié. Et vraiment, on a besoin de lui. Je pense qu'il faut rééditer ses livres, qu'il faut les relire. Il a vécu dans un temps qui était aussi difficile que le nôtre. Mmh. Et pourtant, il est resté fidèle à ses valeurs. Il a combattu. Et une parole d'espérance, une parole de fraternité, un rejet des armes, on a besoin d'entendre cela. Et je suis contente que on le remette à l'honneur à l'occasion du centenaire de sa naissance.
On peut peut-être envoyer les auditeurs à son texte « Vers le monde qui vient », c'est ça ?
Oui, parce qu'une des particularités des écrits d'Edmond Flegg, c'est qu'il reprend ses anciens textes, qu'il enrichit. Donc finalement, les plus tardifs sont ceux qui contiennent le plus d'éléments de sa vie et de sa réflexion, parce qu'il a repris ce qu'il avait écrit au début en l'enrichissant de tout ce que la vie lui enseigne. Et donc voilà, on peut conseiller ces lectures-là, oui.
Un grand merci, Claire Daudin. Je rappelle que vous êtes spécialiste de Charles Peggy, grand ami d'Edmond Flegg. Vous avez dirigé la publication des œuvres de Peggy dans la bibliothèque de la Pléiade en 2014. Merci à Pierre-Henri Paget pour la réalisation technique de cette émission, disponible en réécoute sur rcf.fr.
Connaître le judaïsme était présenté par Odile Riffaut. Dans un instant, sur RCF et Radio Notre-Dame, cette année dans l'histoire, ce matin, 1572, Marguerite de Valois épouse Henri de Navarre.
Ils ont croisé la route du Christ. Ils racontent cet instant dans Témoins. Chaque semaine, des anonymes, qu'ils soient laïcs ou religieux, partagent leur joie de croire et annoncent avec leurs mots cet amour que nous sommes tous appelés à vivre. Témoins, c'est ce dimanche à midi et à la demande sur rcf.fr.
À l'occasion de la réouverture de Notre-Dame de Paris, la Croix vous propose 2 semaines de programmation exceptionnelle. Depuis l'incendie de 2019, une mobilisation sans précédent a permis de redonner vie à ce monument emblématique. Plongez avec la Croix au cœur de cette aventure humaine que représente cette restauration. Découvrez le lien unique des Français à Notre-Dame à travers une grande enquête sur les racines sociologiques et spirituelles de cet attachement. Notre-Dame, les secrets d'une réussite, un dossier exceptionnel de la Croix, disponible dès maintenant dans le quotidien et dans l'hebdomadaire chez votre marchand de journaux.
Vous écoutez RCF à Chambéry sur le 102.3.
Bon début de journée à tous sur RCF et Radio Notre-Dame. Il est 8h30.
Cette année dans l'histoire.
Aujourd'hui, 1572.
Bruno Fuma.
Mais que s'est-il passé pendant ces 12 mois? Avec la mort du dernier roi Jagellon, la royauté redevient élective en Pologne. La France est ensanglantée par le massacre de la Saint-Barthélemy. Et Marguerite de Valois épouse Henri de Navarre. Avec nous pour en parler, Alain Joblin, auteur d'une biographie de Marguerite de Valois qui sort chez Ellipse.
Cette année dans l'histoire, le journal de l'année.
Le 19 avril est signé entre Élisabeth Ière, reine d'Angleterre, et Catherine de Médicis, reine-mère du Royaume de France, le traité de Blois, dans lequel la France et l'Angleterre renoncent à leur rivalité et établissent une alliance contre l'Espagne. Avec ce traité, Élisabeth espère isoler l'Espagne et empêcher la France d'envahir la Flandre. Le 1er mai, le pape Pie V meurt après 6 ans de pontificat, au cours duquel il fait appliquer les réformes décidées lors du Concile de Trente. Il sera canonisé en 1712. Le 13 mai, son successeur est élu. Il s'agit d'un proche collaborateur du défunt pontife, Hugo Boncompagni. Il choisit comme nom Grégoire XIII. Son pontificat va durer 12 ans. Il restera célèbre pour sa réforme du calendrier, le fameux calendrier grégorien. Au Pérou, le 24 juin, les Espagnols entrent dans Vilcabamba, dernier bastion de l'Empire Inca. Ne rencontrant aucune opposition, ils capturent le dernier Inca régnant, Tupac Amaru. Ce dernier, prêt à parlementer avec les Espagnols, est exécuté devant une foule en larmes à Cusco le 24 septembre. En Pologne, le 7 juillet, le roi Sigismond Auguste meurt sans héritier direct, entraînant la fin de la dynastie des Jagellons. La royauté redevient élective dans ce pays. Et sur proposition d'un petit noble ayant fait ses études à Padoue et Paris, Jan Jamoski, le nouveau souverain doit être désigné par l'ensemble des nobles. L'élection a lieu l'année suivante, réunissant 40 000 membres de la noblesse polonaise. Le 11 mai 1573, c'est le prince français Henri de Valois, frère de Charles IX, qui est élu. À la mort de ce dernier, Henri quittera précipitamment son nouveau royaume pour rejoindre la France et devenir le roi Henri III.
Cette année dans l'histoire, la petite info en plus.
Paris est en ébullition en cet été 1572. En marge du mariage entre Henri de Navarre et Marguerite de Valois, a lieu le 22 août un attentat contre l'amiral Gaspard de Coligny qui va provoquer la colère des protestants. C'est dans ces conditions que Charles IX, sous la pression des catholiques et de sa mère, Catherine de Médicis, ordonne à contre-cœur le massacre des chefs protestants pour la nuit du 23 au 24 août. Cette opération, menée par les gardes du roi, va dégénérer en bain de sang populaire, menée par la milice bourgeoise, puis par la population elle-même. Cette nuit entrera dans l'histoire sous le nom de massacre de la Saint-Barthélemy. Ce massacre s'étendra par la suite à la province. On estime qu'au total, la Saint-Barthélemy aura fait entre 10 et 15 000 victimes. Le 26 août, le roi Charles IX tient un lit de justice au Parlement de Paris, où il endosse la responsabilité de ce massacre. 2 jours plus tard, le culte protestant est interdit dans tout le royaume. Et enfin, le 5 septembre, est chanté à Rome, à la demande du pape, un Te Deum d'action de grâce.
Cette année dans l'histoire, l'invité.
1572, devant la cathédrale Notre-Dame de Paris, se déroule le mariage entre Marguerite de Valois et Henri de Navarre, une scène immortalisée par Patrice Chéreau dans son film de 1994, La Reine Margot. Mais au-delà de la légende, qui était vraiment Marguerite de Valois? La réponse dans le livre d'Alain Joblin, Marguerite de Valois, La Reine Margot, sorti chez Ellipse. Alain Joblin, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi un tel mariage à la cour de France entre une princesse catholique et un prince protestant?
C'est un mariage politique essentiellement, parce que Catherine de Médicis, la mère de Margot, de Marguerite de Valois, espère par ce mariage désamorcer l'opposition des protestants dans le royaume de France et donc permettre le maintien de la paix dans le royaume. On ne sait pas très bien ce que Henri de Navarre a pensé de ce mariage, Il est tombé amoureux apparemment de Marguerite parce que c'était une très très belle femme. Mais elle, par contre, on sait que ça a été un mariage qui lui était imposé. Elle l'a dit à plusieurs reprises. il n'était pas question pour elle de renoncer au catholicisme.
Marguerite de Valois, vous l'avez dit, c'est la fille d'Henri II de Catherine de Médicis, la sœur de trois rois de France, François II, Charles IX et Henri III. Quel rôle politique va-t-elle jouer pendant cette période marquée par les guerres de religion ?
Alors justement, c'est une femme qui veut exister par elle-même. Et elle refuse le rôle qui est attribué aux femmes dans la société de son temps. Et entre autres, elle a voulu jouer un rôle politique. Elle se marie avec Henri de Navarre et par exemple, elle va tout faire pour présenter Henri de Navarre, non pas comme responsable des troubles et des guerres de religion qui vont se développer après 1572, enfin ça commence avant mais ça va se poursuivre après 1572, elle va toujours minimiser le rôle aux yeux d'Henri III, entre autres, elle va minimiser le rôle de son mari dans ses affaires, dans cette affaire. Et puis ensuite, elle va surtout, la grande erreur politique qu'elle va faire, c'est de s'engager dans les années 1580 dans la Ligue du Duc de Guise, la Ligue catholique du Duc de Guise, et Henri III la fera emprisonner dans une forteresse auvergnate à côté d'Issoire, la forteresse d'Usson. Bon, moi, je préfère le terme de résidence surveillée plutôt que de prison, parce qu'elle va en faire un grand centre culturel et intellectuel. Mais donc, elle veut jouer un rôle politique. Alors, quand on y regarde bien, quand on analyse ce rôle politique, on s'aperçoit que c'est quand même assez minime. Elle n'a pas eu vraiment de grandes responsabilités au cours de cette période. Et puis surtout, ces engagements sont des engagements, à mon avis, ce sont des engagements, des erreurs politiques.
Un bon exemple de femme politique sous ses yeux, c'est celle de sa mère, oui, Catherine de Médicis.
C'est certain. Il y a un rapport de « je t'aime moi non plus » avec sa mère, hein, c'est-à-dire qu'elle se sent mal aimée par sa mère. Mais d'un autre côté, elle l'admire beaucoup et elle a vu sa mère parler à égalité avec des grands princes et des grands rois européens. Entre autres, sa mère organise en 1564 ce qu'on appelle le Grand Tour de France. Elle veut montrer Charles IX à ses peuples. Et là, elle va rencontrer les représentants du roi d'Espagne, elle va rencontrer les représentants de la reine Élisabeth, elle va rencontrer le duc de Savoie, le duc de Lorraine, qui sont des grands personnages. Et donc, pour Marguerite de Valois, ça a été un modèle politique, sans aucun doute. Et puis aussi, on lui a reproché d'être une coquette, hein, elle attachait beaucoup d'importance à son apparence extérieure, à ses vêtements, ses robes, etc. Mais Catherine de Médicis lui avait dit que c'était très important. Il y avait un devoir de représentation et que ce devoir de représentation avait quelque part une influence, pouvait jouer un rôle politique. Et donc, elle sera toujours très attachée à ce pouvoir de représentation.
En 1589, meurt successivement donc sa mère, Catherine de Médicis, puis son frère Henri III. Son mari, Henri de Navarre, devient roi de France sous le nom d'Henri IV. Elle est donc reine de France. Une situation qui ne va pas durer. Pourquoi son mariage va-t-il être dissous ?
D'abord parce que le couple n'arrive pas à avoir d'enfants. Moi, je suis pratiquement convaincu qu'elle n'a jamais pu avoir d'enfants. Hein, la rumeur publique dira qu'elle a fait des fausses couches ou même qu'elle s'est fait avorter. Et il y a un point intéressant, c'est que dans son testament, elle demande que son corps soit autopsié après sa mort pour montrer qu'elle n'a jamais été enceinte et qu'elle n'a jamais avorté, bien sûr. Et donc, c'est un couple qui n'a pas d'enfants et Henri IV, lui, il lui faut... assurer l'avenir de la nouvelle dynastie qui se met en place, c'est des Bourbons. Et donc c'est pour ça que s'impose pour Henri de Navarre, enfin Henri IV, l'idée de se marier, de retrouver une seconde femme pour pouvoir avoir des enfants. Et ça sera Marie de Médicis, et ça sera le petit Louis XIII qui naîtra, je crois, en 1601 ou 1602.
Comment va-t-elle terminer sa vie, Marguerite de Valois ?
Après son internement à Usson, Henri IV l'autorise à revenir en 1605 à Paris. Elle va passer donc la fin de sa vie, c'est-à-dire les 10 années, puisqu'elle va mourir en 1615 à Paris. Elle va se faire construire un superbe hôtel particulier sur la rive gauche de la Seine, vis-à-vis du Louvre et des Tuileries. Et d'ailleurs, avec une chapelle, et cette chapelle, on peut toujours la voir aujourd'hui dans l'enceinte de l'École des Beaux-Arts de Paris. Elle va aussi séjourner dans un hôtel qu'on peut voir aujourd'hui encore, qui est l'hôtel de Sens, hein, sur la rive droite de la Seine, dans le Marais, hein, au niveau du Pont-Marie. Alors donc, elle va animer une cour qui va devenir une des cours les plus brillantes, une cour qui dépasse très largement le Louvre. Le Louvre, c'est un petit peu, j'exagère un petit peu, mais c'est une caserne. Hein. Henri de Navarre, Henri IV, c'est un militaire. Et la cour de la reine Marguerite, comme on disait, va attirer les grands noms de la littérature française, des musiciens. C'est un endroit où on fait la fête, et c'est une fête extrêmement extrêmement codée. Hein. Il y a toutes des règles de civilité qui se développent. Et puis surtout, elle va multiplier les œuvres pieuses. Elle va à la messe tous les jours, elle multiplie les donations aux différentes maisons religieuses. Elle a des confesseurs, et entre autres, le futur Saint-Vincent de Paul sera son confesseur pendant quelque temps, vers 1610. Et curieusement, elle avait quand même une mauvaise image de marque de son vivant. Curieusement, les Parisiens vont se prendre d'amitié pour elle, et quand elle, ou de respect. Et quand elle meurt en 1615, c'est un des grands littérateurs français, Malherbe, François Malherbe, qui écrit que les Parisiens se sont bousculés pour lui rendre hommage. Je crois que sa dépouille va rester 3 jours présentée aux hommages que vont lui adresser les Parisiens. Et puis surtout, elle va surtout soutenir Marie de Médicis après l'assassinat d'Henri IV. Marie de Médicis qui doit affronter une révolte de la noblesse, et elle va soutenir Marie de Médicis, elle va se montrer très fidèle à Marie de Médicis et encourager les nobles qui se sont révoltés contre elle à rentrer dans le rang, c'est-à-dire à obéir.
Pour le grand public, Alain Joblin, Marguerite de Valois, c'est la reine Margot. D'où vient sa légende noire?
Le surnom de reine Margot, c'est Alexandre Dumas qui lui a attribué. Parce que de son vivant, personne n'aurait osé l'appeler Margot, sauf Charles IX qui l'appelait Margot. Mais non, alors cette légende noire, elle est fabriquée par les historiens qui vont être au service des Bourbons au XVIIe siècle. Il s'agit de montrer que les Bourbons sont là pour régénérer le royaume de France, que ce sont de bons rois, c'est-à-dire des rois qui font exactement leur métier de roi. Et le meilleur moyen pour renforcer cette aura des Bourbons, c'est de rabaisser les derniers Valois. Alors, Henri III, par exemple, est présenté comme un roi feignant, alors ce qu'il n'a jamais été. C'était un roi qui a exercé son métier, pour reprendre le mot de Louis XIV exactement. Et puis, Marguerite de Valois, comme on va mettre l'accent sur, disons, ses aventures amoureuses, on va lui prêter des aventures incestueuses avec ses frères, ce qui est complètement infondé. Et donc, elle va exprimer exactement cette décadence des Valois. Et par la suite, eh bien, les historiens vont continuer à véhiculer cette légende noire jusqu'au XXe siècle. Par exemple, il y a un historien dans les années 1950-1960, je vais citer son nom parce que c'est plutôt un bon historien, Guy Breton, qui parle de Marguerite de Valois comme étant une tigresse privée de mâle, par exemple. Un autre grand historien qui, dans les années 1940, Philippe d'Erlanger, dit c'est une messaline raffinée. En fait, il faut attendre des travaux récents d'historiennes comme Madame Garrison ou Eliane Viennot pour que commence la réhabilitation de la reine. Donc ça a été vraiment construit par les historiens au service des Bourbons au XVIIe siècle.
Marguerite de Valois, la reine Margot, donc un livre qui vient de sortir chez Ellipse. Alain Joblin, un très grand merci à vous.
Eh bien, merci à vous.
La semaine prochaine, dans cette année dans l'histoire, 1163, Maurice de Sully posait la première pierre de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Sur RCF et Radio Notre-Dame, place à présent à nos aventures de Noël qui vont nous accompagner jusqu'au 24 décembre prochain.
RCF vous présente son calendrier de l'Avent sonore, Aventure de Noël.
Ouvre la porte numéro 1.
C'est une histoire qui m'a été racontée par Guy Gilbert, le prêtre des Loubards. J'espère ne pas trop le déformer. Alors écoutez, un jeune garçon avait coupé tous les liens avec ses parents après maintes disputes. Désormais seul, il menait une vie d'errance, pas toujours très convenable, il faut le dire. Les années passées, sans aucun contact avec sa famille. À la suite d'un accident qui l'avait rendu aveugle, vint l'heure des remords, des remises en question, des besoins d'affection. Mais comment ? Il demanda à un ami d'écrire à ses parents. « Dis-leur que s'ils veulent me revoir, ils accrochent un foulard au platane du jardin. Je comprendrai alors qu'ils m'ont pardonné. » Ainsi fut fait. Une fois arrivé devant la maison familiale, le jeune homme aveugle demanda « Alors, que vois-tu ? Il y a un foulard accroché à une branche ?»« Non, répondit l'ami, il n'y en a pas un, mais il y en a des centaines. »
Pour retrouver de nouveaux témoignages de Noël fraternel, rendez-vous dès à présent sur rcf.fr, sur l'application RCF et les principales plateformes de podcast.
Les aventures de Noël, un petit peu notre calendrier de l'Avent à retrouver sur RCF et Radio Notre-Dame jusqu'au 24 décembre prochain. De Georg-Philippe Telemann, nous écoutions l'endonté de la sonate en fa mineur. Vous êtes sur RCF et Radio Notre-Dame, il est 8h46.
La matinale de RCF et Radio Notre-Dame, Bruno Fuma.
Voici l'actualité des chrétiens d'Orient et j'accueille Mgr Pascal Gollnisch. Bonjour Mgr.
Bonjour Bruno.
Vous êtes le directeur de l'œuvre d'Orient et avec vous cette semaine nous nous intéressons à l'Ukraine.
Oui, bien sûr. Nous voyons bien que chaque jour, il y a une actualité souvent douloureuse, tragique sur l'Ukraine et que c'est l'Europe tout entière qui est de plus en plus impliquée dans ce drame. Le pape François a évoqué l'Ukraine martyrisée et nous sommes bien en communion avec cette appréciation tant l'œuvre d'Orient est témoin chaque jour, chaque semaine, des souffrances du peuple ukrainien, j'allais dire une fois de plus. Alors, dans les jours qui viennent, le 5 décembre très exactement, cela fera 30 ans qu'a été signé le mémorandum de Budapest. Il s'agit d'un accord international signé par les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Russie et l'Ukraine, au terme duquel l'Ukraine donnait à la Russie, c'était peu de temps après la chute de l'Union soviétique, l'ensemble de ses armes nucléaires. Puisque, à la chute de l'Union soviétique, l'Ukraine était la troisième puissance nucléaire derrière les États-Unis et la Russie. Elle seule, elle avait plus d'armes nucléaires que la France et la Grande-Bretagne. Alors, elle a donné donc ses armes nucléaires à la Russie et en échange, la Russie, la Grande-Bretagne et les États-Unis se portait garant des frontières internationales de l'Ukraine, y compris le Donbass, y compris la Crimée. D'ailleurs, il y avait eu un référendum au moment de l'indépendance de l'Ukraine et toutes ces régions avaient voté majoritairement en faveur de l'indépendance de l'Ukraine. Alors nous évoquons cela parce que cela nous tient à cœur qu'une parole soit respectée. Il y a un engagement précis qui a été pris par les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Russie pour aider l'Ukraine en souffrance. Ce sont ces souffrances que les catholiques, les gréco-catholiques ukrainiens et aussi quelques latins, ils sont 2% les latins, ce sont ces souffrances qui doivent être soulagées par tous les catholiques et l'œuvre d'Orient est à leur côté.
Pour prendre contact avec l'œuvre d'Orient, c'est 20 rue du Regard à Paris, dans le 6e arrondissement. Mgr Pascal Gollnisch, merci. On se retrouve dès la semaine prochaine.
Merci à vous.
C'était l'actualité des chrétiens d'Orient avec l'œuvre d'Orient.
À suivre sur l'antenne de RCF, la prière du matin. Très bon dimanche à toutes et à tous.
Connaissez-vous l'histoire de votre saint patron? Dans le Saint du jour, Isabelle Delaunay vous raconte la vie mouvementée ou plus religieuse des grandes figures de la sainteté. Le Saint du jour, c'est tous les matins sur RCF et quand vous le voulez, sur rcf.fr.
Chaque dimanche, un prêtre vous répond sur RCF. Une émission qui permet à tous les auditeurs d'avoir une écoute et la possibilité de parler à un prêtre. Un temps précieux pour celles et ceux qui sont ou se sentent isolés. Un prêtre vous répond, c'est chaque dimanche à 21h sur RCF.
Vous écoutez RCF à La Rochelle sur le 95.5.
Vous écoutez RCF, il est 8h50, voici la prière du matin. Dans quelques instants, Mgr Emmanuel Gobillard, l'évêque de Digne, nous proposera sa méditation de l'Évangile. Pour ce premier dimanche du temps de l'Avent, l'Évangile selon Saint Luc au chapitre 21, votre rédemption approche.
En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme.
Dans l'Évangile, le Seigneur Jésus nous invite à ne pas nous tromper de bonheur. Dans une société où le bien-être a pris la première place au détriment parfois du vrai bonheur, nous sommes tentés par ce que la Bible appelle l'idolâtrie. Confondre le vrai bonheur et les plaisirs, certes importants et légitimes, mais qui ne comblent pas la soif de nos cœurs, les désirs d'infini qui habitent chaque être humain. Mon bonheur, ce n'est pas de jouir de la vie, c'est d'être aimé infiniment. Par un Dieu qui a donné sa vie pour moi et qui m'invite à donner la mienne pour mes frères. Au milieu du malheur, les prophètes de l'Ancien Testament, comme le Seigneur Jésus, et tous les saints de l'histoire de l'Église, nous rappellent que le Seigneur est là, toujours présent à nos côtés, parfois silencieux mais infiniment aimant. Oui, l'espérance n'est pas morte, elle se trouve dans le cœur de ces hommes et ces femmes qui savent relever la tête, qui ne se replient pas sur eux-mêmes, qui rayonnent d'un bonheur qui les dépasse. C'est ce à quoi nous invite ce temps de l'Avent. Sachons répondre simplement et avec courage à l'appel de Jésus qui nous invite à la seule réaction qui soit digne du chrétien, la sainteté.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Le
La chorale L'État a réinterprété Le Royaume est proche pour refermer la prière du matin. Monseigneur Emmanuel Gobillard, l'évêque de Digne, avait préparé la méditation de l'Évangile. Pour ce premier dimanche du temps de l'Avent, l'Évangile selon saint Luc au chapitre 21. h 56 sur RCF et Radio Notre-Dame. Voici le saint du jour avec Isabelle Delaunay. Bonjour Isabelle.
Bonjour, en ce 1er décembre, nous fêtons les Florence et les Éloi, deux prénoms d'origine latine. L'un vient de Florens, qui signifie « en fleur », et l'autre, Éloi, veut dire « l'élu ». Sainte Florence est une fille spirituelle de Saint-Hilaire de Poitiers, qui choisit de vivre en recluse, c'est-à-dire dans une cellule souvent murée. S'appliquant à la prière et au jeûne, elle y vécut 7 ans jusqu'à sa mort. Quant à saint Éloi, bien connu par la chanson populaire, on sait qu'il fut conseiller au 7e siècle du roi Dagobert. Toute sa vie, il a manié beaucoup d'argent, mais il a toujours été très honnête et ne s'est pas enrichi personnellement. Son seul but a été d'affranchir des esclaves, de racheter des prisonniers, de construire des hôpitaux et de fonder des monastères. Mais nous fêtons aussi aujourd'hui saint Charles de Foucault, canonisé par le pape François le 15 mai 2022. Il est difficile de résumer en quelques mots la vie de cet officier de cavalerie de l'armée française, à la jeunesse dissolue et scandaleuse, qui décide de démissionner à 23 ans pour aller explorer le Maroc, ce qui lui vaudra d'être reconnu et médaillé par la Société de géographie. De retour en France et après diverses rencontres, dont celle de l'abbé Huvelin, il retrouve la foi chrétienne et devient moine chez les trappistes. Mais Charles souhaite vivre encore plus fort son idéal de pauvreté, d'abnégation et de pénitence. Il quitte la trappe pour devenir ermite en 1897 et vit alors en Palestine. Ordonné prêtre à Viviers en 1901, il s'installe dans le Sahara algérien, à Beni Abbès. Il étudie pendant plus de 12 ans la culture des Touaregs. Il évangélisait beaucoup par son exemple, plus que par ses sermons. Le 1er décembre 1916, Charles de Foucault est assassiné à la porte de son ermitage. Finissons avec un extrait de sa prière bouleversante. « Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi. »
Et oui, merci Isabelle Delaunay. C'est la fin de cette matinale. Merci à Nicolas Fournel pour la réalisation technique. Très belle journée à toutes et à tous. On aura le plaisir de se retrouver dès le week-end prochain.
Message de Philippe Lansac, directeur général RCF.
À l'occasion du Radio Don, vous avez été très nombreux à nous apporter votre soutien financier dans un formidable élan de générosité. Votre engagement, vos nombreux témoignages nous encouragent plus que jamais à poursuivre notre mission de radio chrétienne. Alors, de tout cœur, au nom de toutes les radios RCF, merci.
Il est toujours temps de nous soutenir. Faites aujourd'hui un don en ligne sur rcf.fr.
Chaque dimanche sur France 2, le jour du Seigneur vous propose une rencontre intime avec une personnalité française autour de la spiritualité. Paroles inattendues est le lieu pour découvrir des figures de la culture, du showbiz, de la politique et des médias sous un jour inédit. Retrouvez Paroles inattendues chaque dimanche à 11h55 dans Le Jour du Seigneur sur France 2 et à 12h42 sur RCF. RCF vous propose de célébrer le culte protestant. Depuis ces studios, votre radio invite tous les chrétiens à prier dans un esprit de partage. La célébration du culte protestant, c'est ce dimanche à 13h sur RCF et sur l'application RCF.